Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes rue Léon Gambetta, à Lille, dans le quartier populaire de Oisem. C'est là qu'ouvre en décembre 2017 une rôtisserie plutôt branchée, un concept store, 3 en 1, avec un restaurant, du poulet à emporter et des produits d'épicerie. Valentin Flouret est l'un des gérants adjoints. Le 21 juin 2018, c'est son anniversaire. Ce jour-là, en arrivant au travail, de loin, il voit d'abord beaucoup de rouge, racontera-t-il au journal Le Monde. En s'approchant, il réalise que sa boutique a été taguée, que plusieurs pavés ont été jetés dans la vitrine et qu'il est inscrit en gros et en rouge « Stop au spécisme ». À Lille, c'est la 4e dégradation du même genre en 2 mois. Le lendemain de l'attaque de la rôtisserie, le président de la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteur, interpelle publiquement le gouvernement pour lui demander son soutien. Un peu plus de 6 mois plus tard, à des centaines de kilomètres de là, la ville de Calais prévoit d'accueillir un festival vegan. Le festival est censé se tenir le 8 septembre 2018. Dès la fin du mois d'août pourtant, des charcutiers se mettent en marche pour organiser un barbecue géant avec des chasseurs, des éleveurs et des restaurateurs. Devant les menaces et craignant les débordements, la mairie de Calais interdit le festival. Mais le 4 septembre, le tribunal administratif de Lille suspend cette décision et la fête végane a bien lieu 4 jours plus tard. Plusieurs centaines de personnes sont présentes, écrit la Voix du Nord, et tout se passe pour le mieux. Les opposants ont même renoncé à leur barbecue géant pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Dans l'espace symbolique, émotionnel, écologique, politique et culturel qui se situe entre ces 2 histoires et qui les inclut, 4 récits tout de suite sur notre rapport complexe à la viande et aux animaux par Émilie Chaudet et Olivier Minot.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis dans le Vieux-Lyon, quartier Saint-Jean. Et je me rends à la grande boucherie de Saint-Jean, qui est en fait une petite boutique, petit boucher de quartier.
Bonjour, alors moi je m'appelle Maxime et je suis employé à la maison Fossy. Boucher, ça fait 2 ans là, c'est ma 3e année.
Voilà, et moi monsieur Fossy, ça fait 20 ans que je suis ici dans le quartier, voilà.
C'est ce qu'on appelle la grande...
La grande boucherie Saint-Jean. Bah, ils nous ont tagué un week-end, enfin on était plus d'une trentaine de boutiques je crois, taguées dans la nuit, fromagerie, crèmerie, et on a découvert ça le mardi matin en arrivant, voilà, qu'on était tous tagués, voilà.
Il y avait marqué crève, il y avait marqué tueur d'animaux, machin. Il y avait marqué spéciste, il y avait marqué ALF aussi, je crois que c'est le nom de leur association.
Le fromager à côté
Lui, c'était violeur de chèvre, ouais.
Vu qu'on les insémine un peu artificiellement, on les fait tomber enceinte de manière, mais pas forcément naturelle, parce que c'est pas le mâle qui vient lui faire les câlins. Du coup, c'est des violeurs de chèvre, quoi. Ils s'en sont pris à tout le monde, ils s'en sont même pris au monsieur qui vend de la soie, parce que monsieur tue des larves de soie. Et du coup, bah même lui, il a eu le droit à son petit tag et je crois qu'ils lui ont même mis un coup de marteau dans la vitrine, non ?
Je crois qu'il a eu un coup de marteau, oui. Moi, j'ai appris un métier à 16 ans, un apprentissage. On m'a fait apprendre un métier, maintenant on me dit que je suis un assassin, je comprends pas quoi.
Moi, je sais que j'ai fait un peu de grande surface et en grande surface, tous les matins, tout ce qu'on jetait en viande, moi, ça me dégoûtait. Je jetais quasiment un caddie rempli de viande, quoi. Nous, on fait une bête semaine, une génisse par semaine. Ça, c'est des bêtes, elles vivent en plein air et tout, on a les numéros des éleveurs. Nous, on n'a pas de souci à se faire là-dessus, quoi. On sait que l'élevage est bien fait. Elles sont pas élevées sous des néons, les bêtes. Que ce soit le porc, que ce soit tout, quoi. Elles respirent, elles broutent, elles sont tranquilles, et puis à l'abattoir, ça se passe nickel, quoi. Du coup, je trouve ça un peu ridicule de venir s'en prendre à nous, hein. Parce qu'eux, ils se basent surtout sur les vidéos, les violences en abattoir, les machins comme ça. Mais nous, on est au moins aussi d'accord qu'eux sur les maltraitances animales en abattoir, quoi. Moi j'y suis allé en abattoir et j'ai pas envie d'y travailler parce que c'est un peu glauque. C'est tuer des animaux qui te regardent, machin, enfin bref, et c'est souvent des personnes, au début ils le font un petit peu à reculons, et puis après ça devient machinal, ils voient plus des bêtes, quoi, ils voient de la matière, quoi, ils voient pas forcément que c'était un être vivant avant. Et du coup c'est vrai que de temps en temps, je pense que le mec il pète un peu les plombs, il en a marre, il a passé une sale nuit, c'est vrai qu'il met un petit coup de sabot. Ça je cautionne pas moi, tout ça moi ça me... Nous ça cautionne pas, hein. Parce que de toute façon, tout le monde le sait, un abattoir, quand ça se passe mal, la viande, c'est de la merde. Ça devient de la merde. Elle doit pas se voir mourir, elle doit pas être stressée pour qu'elle soit bonne. Parce qu'un agneau qui est là comme ça, qui est tout... Alors là, vous pouvez être sûr que la viande, après, vous en ferez rien, ça va être, c'est dégueulasse. Moi, je sais que la carcasse, ça ne me dérange pas. Par contre, l'abattoir, impossible. Impossible. J'adore les animaux et certainement autant, enfin même plus que certains véganes. Je pense qu'il y a des choses à faire sur la chaîne, mais pas les derniers maillons de la chaîne qui sont les bouchers. En élevage, les machins, l'élevage intensif par exemple, tout ce qui est élevé en cage, tout ce qui est élevé sous néon et tout, pour moi ça devrait pas exister en fait, c'est juste pas possible. Putain, mais je suis le premier à m'offusquer, enfin, je suis le premier à envie de mettre des tartes dans tous les éleveurs là qui font n'importe quoi, qui remplissent des cages avec 10 fois trop de poules. Juste parce que ils veulent du rendement, ils veulent du débit, et puis voilà quoi. C'est vrai, ouais, j'aime les animaux et je suis boucher, et les deux sont conciliables. Après, je m'arrêterai pas de faire ce métier-là, je m'arrêterai pas de me faire livrer des carcasses toutes les semaines, mais c'est vrai que, ouais, on n'oublie pas que ça a été des êtres vivants, et qu'on peut pas faire les bouchers dessus, quoi. À l'époque de la préhistoire, on commençait déjà à chasser de la bête pour justement manger de la viande et tout. C'est la chaîne alimentaire qui est faite comme ça, on est tout en haut et puis bah on mange quoi. La viande c'est bon quoi, c'est con à dire mais c'est bon. Je comprends pas les gens qui veulent interdire de manger de la viande quoi.
Voilà, maintenant je suis prêt à arrêter quoi, voilà, parce que c'est quand même des heures. Moi c'est 4h30, 20h, voilà. 4h30 le matin et 20h le soir à la maison. Donc là j'ai 56 ans, bon voilà, il est temps de poser les couteaux et voilà, passer à autre chose. Donc les végans n'auront plus affaire à moi.
Abolition, bio ou pas bio, élevage, oppression, élevage, exploitation, élevage, abolition.
Parce que bio ou pas bio, élevage,
oppression,
élevage,
exploitation,
élevage,
abolition.
Alors j'ai 23 ans et je suis végétarienne depuis 2 ans maintenant. J'adorais la viande, j'adorais le saucisson aussi. J'ai pas connu le repas sans viande en étant petite. En fait, enfant, je détestais les légumes. Et en fait, j'ai réalisé, en lisant un article, j'ai lu que 3/4 des terres dans le monde, en fait, étaient utilisées pour nourrir du bétail qui servait à nourrir principalement des Occidentaux. Et donc, en fait, au début, c'était simplement une question de cohérence. Je me suis dit, je peux plus manger de viande, en fait. Et du coup, au début, ça a été très dur. Et donc, je m'étais dit, quand je suis à la maison, je cuisine végétarien. Et puis, quand je vais à l'extérieur, quand je vais au restaurant, je me fais plaisir et je prends de la viande. Et puis, en fait, peu à peu, j'ai fait plusieurs restaurants et je prenais de moins en moins de plaisir à manger de la viande. Au début, c'était un peu une contrainte. Et puis, finalement, c'est vraiment devenu un plaisir. Et un choix. Alors, quand j'ai dû l'annoncer, j'ai voulu faire ça plutôt discrètement, parce qu'en fait, je viens du Nord, du Pas-de-Calais, et en fait, dans la famille, on a quand même une cuisine qui tourne énormément autour de la viande. De la viande, de la pomme de terre, il n'y a pas énormément de légumes. Et puis un jour, je suis rentrée un week-end à la maison et je leur ai dit « Vous embêtez pas pour moi, vous faites votre plat, moi je fais le mien, et puis on mange tous ensemble comme d'habitude. » Mes parents ont réagi de manière assez positive, au début en tout cas. Et puis en même temps, il y a eu aussi beaucoup d'inquiétudes sur ma santé. Mes parents voulaient absolument que je fasse des prises de sang régulièrement. Et il y a aussi le fait que chaque petit souci de santé que j'avais était devenu une conséquence du végétarisme. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où j'étais extrêmement stressée, je travaillais 45 heures par semaine, je travaillais le week-end. Et j'avais perdu 5 kilos. Mes parents m'ont dit « Non, mais il faut vraiment que tu manges de la viande. C'est à cause de ça, c'est à cause de tes conneries de végétarisme. » Donc voilà, tout était lié à ça. Il y a eu une fois particulièrement où ça a été violent. C'était un peu après la nouvelle année. On était réunis chez ma grand-mère. On était 15 à table. Et ma grand-mère avait préparé pour le dîner un gratin de pâtes avec voilà, des poireaux au-dessus et du jambon. Et elle m'avait dit « Bon, bah, je vais te faire une petite partie sans jambon. » Puis à un moment, je suis allée à la cuisine et je regarde dans le four à quoi ça ressemble. Et je voyais pas très bien et ma grand-mère était à côté. Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis « Ah, mais je comprends pas. Est-ce que tu as mélangé le jambon aux pâtes ?» Parce que je voulais savoir si j'allais pouvoir en manger. Et là, en fait, ma grand-mère a a complètement explosé. Elle a fondu en larmes, elle m'a dit « mais je comprends pas, quand t'étais petite t'aimais tellement la viande, t'aimais tellement ça, voilà, tu réclamais toujours pour aller avec nous chez le boucher, puis là tu manges plus de viande, je comprends pas ». Ça a été hyper violent en fait, parce que moi, ma grand-mère, depuis que je suis toute petite, j'ai passé toutes mes vacances chez elle, on est extrêmement proches, et là je me suis sentie complètement rejetée, et pas du tout à ma place quoi. Moi, j'ai senti forcément les larmes monter aux yeux parce que j'avais jamais entendu ma grand-mère me crier dessus comme ça. Elle, elle a quitté la cuisine. Moi, je suis restée quelques minutes. En fait, j'ai pleuré un peu. Et puis, en fait, j'ai juste attendu dans la cuisine, voilà, le temps de sécher les larmes et puis d'arriver à table devant les 15 personnes en faisant comme si rien ne s'était passé. Elle était loin de moi. Elle était à l'autre bout de la table. Je la voyais pas trop, je la regardais pas trop non plus. J'arrivais toujours pas à parler non plus parce que je sentais que voilà, les larmes montaient. Et finalement, il se trouve que le jambon était au-dessus du gratin et j'ai bien pu manger ma part et tout s'est bien passé par la suite. C'est un moment en fait où on a arrêté de se comprendre. Depuis qu'on est tout petit, on prend ce qu'il y a dans les plats et on finit son assiette. Alors que moi j'arrive et puis ben en fait non, je vais pas tout manger, je vais en prendre une partie. Ou bien je vais cuisiner ma petite chose à côté, ou bien je vais pas finir mon assiette parce que je vais laisser la viande de côté et puis la donner à quelqu'un d'autre. Et en fait, à chaque fois que je lui parlais de cuisine, elle me disait « je comprends toujours pas pourquoi t'es devenue végétarienne ». Enfin, elle me ressortait toujours cette phrase de « je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Donc je lui ai expliqué plusieurs fois le fait que c'était pour des raisons environnementales. Et voilà, elle restait toujours avec cette phrase-là « je ne comprends pas ». Il y a aussi le fait qu'elle a dû s'occuper de mon grand-père qui, pendant 6 ans, avait un cancer du pancréas et ne pouvait plus s'alimenter normalement, en fait. Et lui, c'était par contrainte, alors que moi, je m'alimente différemment et c'est par choix. Et c'est ça aussi, je pense, qui a dû la travailler un peu, quoi. Et mon grand-père travaillait dans sa jeunesse dans un abattoir. Et du coup, voilà, il a toujours adoré la viande aussi. Enfin, si j'ai un seul souvenir marquant de mon enfance chez mes grands-parents, le mercredi matin, on allait ensemble au marché chez le boucher, choisir notre morceau de steak. Et moi, j'étais très fière quand j'étais petite parce que je prenais un steak qui avait la même taille que le steak de mon grand-père. Et du coup, je me sentais un peu adulte. On mangeait ça le midi avec des frites cuites dans du gras de bœuf. Et on se régalait tous les deux. Et voilà, et c'est le seul souvenir que j'ai, souvenir marquant en tout cas. Alors depuis, avec ma grand-mère, bien sûr, ça se passe bien. Elle aussi, je pense, l'a à moitié acceptée puisqu'elle fait attention à moi. Enfin, quand je vais manger chez elle, c'est toujours un casse-tête, mais elle me dit « bon, ben, je t'ai fait des moules, voilà, comme ça on peut manger la même chose ». Et bon, j'ai pas encore osé lui dire que les moules, c'était pas végétarien, mais voilà, c'est la seule exception que je fais pour ma grand-mère. Voilà, maintenant ça se passe bien.
Ah, bonjour.
L'hibou de Lyon.
Qu'est-ce que tu manges là ?
Petit casse-dalle, terrine de sanglier, rosette, salade verte, petit cornichon quoi.
Pas vegan ça, hein ?
Les vegans qui mangent vegan mais qui nous fassent pas chier. Ils avaient pas défoncé les boucheries. C'est grâce à la viande qu'on est des hommes. Les hommes préhistoriques, ils sans viande, ils étaient cons et chassaient le sanglier, chassaient le mammouth. Après, en mangeant de la viande, les protéines de la viande qui étaient cuites ont commencé à développer leur cerveau. Et là, ils ont commencé à se développer, à avoir des tactiques de chasse, à évoluer. Et voilà, on est devenu ce qu'on est maintenant, des hommes. J'ai vu qu'hier chez moi, il y avait un abattoir dans l'Ain, plan d'automne. Ils mettent de la musique classique pour tuer les bêtes quand ils entrent dans l'abattoir. Pourquoi ils vont brûler cet abattoir-là ? Parce qu'une bête, en vrai, elle ressent. Quand elle est dans son champ, tu la mets dans le camion, tu la transportes qu'à l'abattoir, elle stresse un peu. Arrivée dans l'abattoir, tu mets une musique classique, ça l'apaise. C'est pas comme si elle rentrait comme ça, elle entend des bruits bizarres de machines et tout. Et là, elle sait qu'il va se passer quelque chose, elle est stressée. Tu comprends ? C'est logique pour moi, la musique classique, ça adoucit les mœurs, hein. Ben, on connaît bien.
Je suis devenue végétarienne en 2010, donc j'avais 20 ans, 21 ans, au cours d'un voyage au Mexique, au Chiapas. Et là-bas, en étant là-bas, je me suis rendu compte de quelque chose que je sentais déjà un petit peu, qui est l'absurdité du système agricole mondial. Dans cette région, les meilleures terres étaient réservées à l'élevage de bœufs. dans des immenses prairies d'élevage extensif. Et tout ce bœuf était, dans l'immense majorité, exporté principalement aux États-Unis. À ce moment-là, je mangeais de la viande. Et ça m'a tellement choquée, je me suis dit, mais comment est-ce que moi, je peux être complice de ça? Et donc, du coup, je ne voulais pas participer à ce que je considérais comme être une absurdité, une abomination. J'ai été comme ça végétarienne pendant plus de 5 ans. Et puis en 2015, j'ai décidé de partir à vélo avec une amie ingénieure agronome. Et on a décidé d'avoir comme fil rouge de ce voyage à vélo le fait d'aller dans des fermes. Donc il y a eu plusieurs étapes, mais effectivement, je me suis rendu compte dans les fermes à chaque fois où on arrivait que très souvent les paysans étaient aussi éleveurs. C'est-à-dire que des chèvres qu'on utilise pour le fromage, eh ben, il y sert pour les cochons. Et puis après, le fumier, il est utilisé d'engrais pour les légumes bio. Et tout ça est un écosystème. Et donc, effectivement, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est pas aussi absurde que ce que moi, je voyais au Mexique. C'est pas que de l'élevage extensif de bœuf sur des kilomètres et puis qui affame le reste du monde. Enfin, la réalité est un peu plus complexe que ce que moi, je me disais, quoi. Et puis, il y a eu un déclic dans une ferme en Ariège, chez des éleveurs de chèvres, qui nous emmènent nous promener sur la montagne et nous racontent qu'en fait, là, cette montagne magnifique, on avait une vue sur les Pyrénées dans le loin. Il y a 20 ans, c'était un roncier où il y avait des ronces. Il n'y avait pas moyen d'y passer, de se promener. Et comment est-ce que petit à petit, l'élevage, les chèvres, avaient grignoté un petit peu tout ça et donc avaient ouvert le milieu ? En me baladant avec ces gens, en voyant l'amour qu'ils avaient pour leurs bêtes, le respect qu'ils avaient, tout le travail qu'il y avait entre les animaux et les éleveurs. C'est pas juste on laisse les animaux manger, mais il y a toute une relation. Ils laissaient les chevreaux quand même assez longtemps avec la mère, et puis la traite à la main. Et forcément, il y a une intervention de l'homme sur l'animal, mais en tout cas, en termes de bien-être, pour moi, il n'y avait rien à redire. Le soir, quand on s'est retrouvé autour du repas, je me suis dit, mais c'est un peu bête, en fait, mon truc de me dire, eh ben, si je veux être écolo, il faut que je sois végétarienne. Qu'est-ce que ça a comme sens, en fait? Là, je suis avec des gens qui sont bien plus écolo que moi et qui défendent un élevage qui, à mon avis, est bon pour la planète. Et donc, voilà, ce soir-là, ils nous avaient préparé des tripes de chevreau qui embaumaient toute la pièce. Puis bon, bah, ils m'en ont proposé et j'ai pas pu refuser, quoi. Donc j'en ai mangé. Alors, je peux pas dire vraiment que le plat de tripes me faisait vraiment envie. Hein. C'est quand même quelque chose qui a un goût très fort, une odeur très forte. Ça faisait 5 ans que j'avais pas touché de viande. Mais c'était quelque chose dans le partage, d'être ensemble autour de cette table, de se raconter des histoires. Et ils m'en ont servi un tout petit peu. Hein. C'était pas genre une grosse plâtrée, c'était juste pour voilà, le truc de partager et d'être ensemble. Avant que je devienne végétarienne, j'aimais les tripes, effectivement. Et donc, quand j'ai regoûté à nouveau, j'ai aimé la saveur, j'ai aimé retrouver ce goût. Et puis, bah, ça avait un bon goût de chevreau, parce que c'était du vrai directement, quasiment que j'avais vu courir dans la journée à côté de moi, quoi. On s'était déjà arrêté dans plusieurs fermes avant, où j'avais refusé le fait de manger de la viande, enfin, le plus poliment possible, hein, toujours. Ce soir-là, il y avait autre chose. Il y avait cette journée qu'on avait passée à se promener dans les montagnes. Il y avait le fait de cette petite ambiance à la bougie, là, dans cette maison en paille. Par contre, la nuit a été plus difficile. Hein. C'est mes tripes à moi qui n'ont pas supporté leurs tripes à eux, d'une certaine manière. Je pense qu'effectivement, 5 ans d'abstinence, entre guillemets, c'était difficile, quoi. Et je ne me suis pas remise à manger de la viande à ce moment-là. Et il y a eu une autre rencontre en Roumanie, un monsieur qui s'appelait Pavel, dans mon souvenir, et qui avait une vache. Et tous les matins, il allait traire sa vache et il parlait à sa vache. Quand on voit cette relation qu'il y avait, ouais, je pense d'une forme d'amour, en fait, entre ce paysan et sa vache, je me suis dit, mais où est la souffrance? Où peut être le côté destructeur? Où est l'anti-écologie là-dedans, quoi, en fait? Ça m'a vraiment interrogée, quoi. En tout cas, aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans que je me suis remise à manger un peu de viande, à raison 2 fois par mois, des fois un peu plus, hein, mais c'est pas énorme non plus. Et aujourd'hui, je suis bien avec ça. Mon expérience de ce voyage, de pourquoi est-ce que je me suis remise à manger de la viande, j'ai eu envie de la partager. Donc j'ai écrit un texte. Donc le texte que j'ai écrit a été partagé sur les réseaux sociaux et a suscité une flopée de réactions comme je ne m'y attendais pas du tout, très agressive. C'est vous qu'on devrait envoyer à l'abattoir, ça ne vous réveille pas la nuit d'avoir du sang sur vos mains. Enfin vraiment de cette teneur-là, et je pense que c'était des personnes qui faisaient partie du mouvement vegan et antispéciste. Ça m'a surpris, quoi. Ça m'a un peu choquée aussi, effectivement. Et puis, ça m'a rendue triste aussi, quoi. Triste de me dire, bon, j'ai pas su ou pu transmettre ce que je voulais transmettre comme récit. Et puis, tous ces paysannes et paysans qui élèvent leurs bêtes avec le plus de respect possible, qui font leur travail le mieux possible pour des salaires de misère, qui donnent tout ce qu'ils ont, en fait, pour ça, et ben. En fait, finalement, à travers les réactions vis-à-vis de moi, à travers moi, c'était eux qui étaient visés d'une certaine manière, quoi. Et je me suis dit, ben en fait, ils ne méritent pas ces réactions. Ils ne méritent pas ces réactions.
Avec les vaches, vivons en paix, vivons en paix, vivons en paix. Avec les vaches, à vous,
vivons en paix.
À vous.
Vivons en paix.
À vous.
Vivons en paix.
Avec les poussins, vivons en paix. En paix. À vous. Vivons en paix. Avec les bœufs, vivons en paix. À vous.
Vivons en paix.
À vous.
Vivons en paix.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Margot, j'ai bientôt 35 ans. Mon chat, je l'ai trouvé, je crois que c'était en janvier 2008, dans le jardin de ma grand-mère. Il y a toujours eu beaucoup de chats dans le jardin de ma grand-mère. J'étais avec mon cousin, on s'est dit on va les prendre et on va les vendre sur le bon coin. Et en fait, quand on a trouvé Gizmo, donc c'était en plein mois de janvier, il faisait hyper froid, elle était toute seule, elle devait avoir 2-3 mois, et elle était mais pourrie, de l'extérieur comme de l'intérieur. Elle avait pratiquement plus de poils, elle avait une queue de rat, elle était malade. On a réussi à la capturer, on s'est dit mais ce chat-là on va jamais pouvoir le vendre sur internet. Elle était café de verre, c'était vraiment, mais c'était un déchet quoi. Du coup, j'ai laissé là, je me suis dit, bah, pendant 2-3 semaines, je vais la laisser sur mon canapé, puis on verra bien, je vais pas m'attacher. Je me suis dit, je la prends pour qu'elle meure chez moi, en gros, quoi. Et elle est pas morte. Et je l'ai gardée. Je l'ai pas vendue. En fait, ce chat, c'était... C'était ma pote, quoi. J'avais un peu l'impression de lui avoir sauvé la vie. Enfin, ce qui est le cas, en fait. Hein. Et elle s'en était rendue compte, en fait. Et on avait une relation vraiment particulière. Je sais pas comment dire ça, on se comprenait, on se captait en fait. Elle faisait sa life, mais quand même, la plupart du temps, il fallait qu'elle capte mon regard et qu'elle me montre des trucs et qu'elle joue et qu'il fallait que je joue avec elle en fait. Et même si j'ai un enfant maintenant, à vrai, pour moi c'était ma fille quoi. Enfin, je l'ai élevée, on avait une relation fusionnelle un peu. Donc je rentre un soir relativement tôt, c'était cool, vers 18h j'ai dû arriver à la maison. On a fait notre vie avec Colin, mon fils, on a ramassé des framboises, c'était super. Et on a frappé au portail. Et c'était la compagne d'un de mes voisins qui s'est arrêté, qui a frappé au portail. Donc c'est là que j'ai entendu, c'est à votre petite Minette. Elle s'est fait écraser. J'ai dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et elle m'a dit, non, m'a fait non de la tête, hélas. J'ai perdu toute la force dans mes jambes et je suis tombée. C'est une sorte de fin logique pour un chat, j'ai l'impression. C'est horrible. On pouvait pas trop attendre. Du coup, on l'a enterré le soir même, à la nuit tombée, quoi. Normalement, on n'a pas le droit d'enterrer ces animaux aussi. Non, à cause des maladies, du coup, il faut les emmener chez le véto qui va les emmener et à l'incinérateur les faire brûler comme ça. Avec tous les animaux morts, quoi. Enfin, c'est glauque. Du coup, là, on l'a enterrée, on lui a fait une petite boîte, j'ai mis un petit coussin et on l'a mise là. Et il y a Colin, mon fils, qui était là, qui a compris, qui l'a caressé une dernière fois. Et il y a Gaïa, ma chienne, qui est venue aussi. C'était trop bizarre, en fait. Et il y a l'autre chat, Grishka, qui est venue aussi. Comme si elle comprenait. On était en bas du jardin, elles sont toutes venues. Mais pour l'instant, j'y suis pas retournée. Du coup, le lendemain, j'étais complètement... j'arrêtais pas de chialer tout le temps. J'étais un zombie, quoi. J'avais pris du Xanax, je crois, ou du... Je sais pas ce que j'avais pris. J'aurais bien voulu prendre 2-3 jours. Et oui, j'ai eu des réflexions du type... tu veux t'arrêter pour ça ? T'es dans une situation bizarre où tu culpabilises. Parce qu'en gros, t'as pas le droit de souffrir, t'as pas le droit d'avoir mal. Il faut que tu fasses comme si de rien n'était. J'aurais perdu un membre proche de ma famille humain. Les gens, ils m'auraient dit, mais t'inquiète pas, arrête-toi, vas-y, fais des pauses, finis plus tôt. Sans problème, quoi. Alors que là, j'étais sûrement aussi démontée, mais il fallait pas que je le montre. Tu peux absolument pas contrôler une tristesse ou un deuil. Enfin, et même si tu veux le faire, ton médecin il dit non, mais prenez pas des antidépresseurs, c'est pas la peine, faut faire son deuil. Donc je prends du passiflore, voilà, ça passe très bien. C'est des petites gélules. Ça ressemble à un antidépresseur, mais dedans c'est des plantes. C'est un traumatisme, quoi. Et c'est sûr, sûrement, si je perds mon fils, ce sera pas la même chose, tu vois. Mais il n'empêche, pour moi, j'ai perdu un membre de ma famille, en fait. On était une petite famille, quoi.
Du coup, est-ce que tu te considères comme antispéciste ?
Ouais, là, faut pas parler mal d'un animal, là, sinon t'as plus de temps. J'ai toujours adoré les animaux, donc après, je mange de la viande. Mais en vrai, là, depuis que Gizmo, elle est morte, je mange plus de viande, en tout cas, le maximum où je peux, parce qu'on mange beaucoup dehors quand on bosse, là. Je prends des assiettes végétariennes et je veux plus entendre parler de viande. Mais en tout cas, les animaux, ça saoule, en fait, les gens qui en ont rien à foutre. Cats and dogs are not our friends. They just pretend, it's just emotions we invent, like photographs we put on shelves. Cats and dogs are not our friends. Scratch their ears, they'll wave their tails. And if it rains,
manger des animaux, point d'interrogation. C'était un reportage d'Émilie Chaudet et Olivier Minot, réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Margot, à la grande boucherie de Saint-Jean, à Lorraine, à Rose Vidal pour l'illustration, à Jeanne Delecroix qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre, à Camille Richir qui est notre stagiaire, et à Jean-Guilain Meige qui a enregistré ce petit micro.